France Musique. France Musique, Grand Large, Go West, Laurent Vallière.
Aujourd'hui, troisième épisode, New York, la bataille des opéras. Si Boston est la ville de la musique classique au commencement des États-Unis, New York sera celle de l'opéra. Certes, ce n'est pas la première ville qui dispose d'une troupe régulière, la Nouvelle-Orléans est précurseur, mais l'opéra va compter dans le prestige international de la ville. Les New-Yorkais vont adorer les grandes voix. Avec même une bataille homérique entre deux maisons d'opéra, le Metropolitan Opera et le Manhattan Opera House. Ça sera une bataille de voix, une bataille de stars, et Caruso, Enrico Caruso, fera certainement partie des munitions.
Viens vers ton épaule.
La voix d'Enrico Caruso dans cet extrait d'Eugène Onéguine de Tchaïkovski, pour moi ce jour est tout mystère. Mais avant d'arriver à cette superstar, Enrico Caruso, faisons un état des lieux. À New York, au 19e siècle, la vie musicale se déroule surtout du côté du bas de Manhattan. C'est là qu'arrivent les migrants. Cette ville est un creuset, on trouve des spectacles de vaudeville, de sketchs, de chansons. Une ville très allemande. Il y a d'ailleurs un opéra en langue allemande dans le quartier de Bowery, le Stadttheater. À partir des années 1730, on peut assister à des opéras à New York. Alors pas les opéras coûteux, flamboyants, aristocratiques de l'opéra baroque, non, des opéras ballades britanniques en langue anglaise, des pièces avec chansons qui captivaient le public britannique, ou chansons et dialogues alternent, comme l'opéra des Gueux de John Gay de 1728, opéra satirique, critique de l'establishment politique, social et musical. Les New-Yorkais découvrent l'opéra des Gueux en 1750. Elle est montée par une compagnie de comédiens de Philadelphie. Kirite Kanawa avec le National Philharmonic Orchestra dirigé par Richard Boninge. C'était un extrait de l'opéra des Gueux, Virgins Are Like the Flare Flow. New York était fou d'opéra dès le 19e siècle. Il suffit simplement de recenser les maisons d'opéra existantes pour s'en faire une idée. Sur la 14e rue, l'Académie de musique avec ses 4600 sièges était ce qui ressemblait le plus à un opéra à l'européenne. Sur Bowery, pas très loin, Stadttheater était consacré au théâtre de langue allemande, Goethe, Schiller. Mais on y présentait aussi des mélodrames, des farces et des opéras. La salle pouvait recevoir 2500 personnes, on pouvait y boire, il paraît que le lieu était pas très propre. En 1871, y est monté pour la première fois Lohengrin de Wagner. À l'époque, la ville comptait beaucoup d'Allemands. D'ailleurs, l'influence allemande se réduira énormément après l'entrée en guerre des Américains dans la Première Guerre mondiale. Sur Chamber Street, pas très loin, toujours dans le sud, il y avait Palmo's Opera House, 800 sièges. Le producteur Ferdinand Palmo maintenait le prix des places réduit afin, disait-il, de conserver l'art dans quelque chose de populaire. Enfin, sur le port, il y avait Castle Garden, une vocalisation insurpassable, écrivait Walt Whitman, l'écrivain. C'était en fait un bateau à vapeur transformées et qui dormaient sur l'eau. Ces salles se louaient à des impresarios dont le travail consistait à booker des artistes, à programmer une saison en essayant de faire des profits, ce qui n'était pas évident. Ceux qui arrivaient étaient des impresarios au sens commercial du terme, et peut-être le plus célèbre d'entre eux en Amérique, c'était P.T. Barnum, qui avait créé le Cirque Barnum qui tournait à travers tous les États-Unis. En 1850, Barnum avait signé un grand coup en faisant venir de Suède, à grand renfort de publicité, une magnifique soprano blonde, Johanna Maria Lind, née à Stockholm. Il crée, Barnum, sa légende pour le grand public en disant qu'elle est comme un ange descendu sur terre. Il modifie sa biographie. Et pour son arrivée à New York, il crée un grand événement sur le port. On a installé des banderoles. Bienvenue Jenny Lind, bienvenue en Amérique. 200 musiciens chantent pour elle. Jenny Lind, ça va être son nom américain, va devenir une star lyrique, la première avant Enrico Caruso, une inspiration. Et durant les spectacles de Barnum, qui étaient des spectacles de cirque, elle interprétait ses airs lyriques et notamment Casta Diva, extrait de Norma de Bellini. Thank you. Castadiva, l'air de Norma dans Norma de Bellini. C'était Angela Giorgio avec l'orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden, dirigé par Ion Marin. L'opéra au XIXe siècle avait plusieurs langages, comme les Américains, et c'était pas fondamentalement un divertissement aristocratique à New York. Les opéras de Bellini, Donizetti, Rossini étaient présentés en version abrégée et en langue anglaise. Mais Manuel Garcia va changer les choses à New York. Il avait créé le rôle de Alma Viva dans Le Barbier de Séville, de Rossini. Sa femme et son fils étaient aussi chanteurs. Il habite New York, il fait venir des costumes, fabrique des décors et crée une saison de 9 mois d'opéra italien. Le Barbier de Séville ouvre par exemple le 29 novembre 1825 au Park Theater. Alors c'est quand même une entreprise étrange parce qu'il y a certains New Yorkais qui se demandent si un opéra en langue étrangère peut attirer un public. Eh bien c'est le cas et d'autres découvrent un plaisir purement vocal à aller voir des opéras. À l'époque, le librettiste de Mozart, Lorenzo da Ponte, qui avait notamment écrit le livret de Don Giovanni, habite New York. Il va féliciter la troupe et l'encourager à monter Don Giovanni. Mais pour le moment, voici le Barbier de Séville.
Son l'indoro che fido v'adoro, che sposa vi bramo, che a nome vi chiamo, che a nome vi chiamo. Di voi sempre parlando così, d'ora ora al tramonto del dì, dall'aurora al tramonto del dì.
Segui, o caro, te segui così.
Sentite a che vi pare,
com'è felice,
da bravo a voi seguite.
L'amoroso e sincero l'indoro non può darvi, mia cara, un tesoro. Ricco non sono, ma un cuore vi dono, un'anima amante che fida e costante, che fida e costante. Per voi solo sospiro così, da l'aurora al tramonto del dì, dall'aurora al tramonto del dì.
Maria Callas e Rosina, Tito Gobbi, Figaro, Luigi Alva, le comte Almaviva, avec le Philharmonia Orchestra dirigé par Alceo Galliera. C'est un extrait du Barbier de Séville de Rossini.
France Musique, Go West, Laurent Vallière.
Ce qui va changer l'opéra à New York, c'est la construction du Metropolitan Opera. Alors c'est vraiment du matu vu. Il est créé par des personnalités arrivistes dont la grande richesse dictait des occasions où parader. Des nouveaux riches, des industriels, des banquiers, des gens habitués à construire des yachts, des résidences, des country clubs, et qui décident de construire un opéra d'une dimension plus grande que celle imaginée par Verdi ou Wagner. Un auditorium avec 3215 sièges et 122 loges. Les mauvaises langues disent que c'était un demi-cercle de loges entouré d'une maison d'opéra. En tout cas, c'était l'avènement du grand opéra, des espaces vastes, des voix énormes, des costumes, des décors flamboyants. Il se situe, le premier Metropolitan Opera, 1411 Broadway, au niveau de la 39e rue, quasiment au niveau actuel de Times Square. On avait donc délocalisé l'opéra, on était monté plus au nord de New York. La salle est inaugurée le 22 octobre 1883, une première saison italienne, mais très vite, les opéras allemands prennent le dessus. Celui qui va donner une ampleur incroyable à cette salle se nomme Anton Seidel. Il est né à Budapest en 1850, il arrive à l'âge de 35 ans aux États-Unis. Il paraît que c'est Wagner lui-même qui lui a conseillé de partir. Il va faire ses débuts dans Lohengrin et il découvre dans les partitions à New York 180 erreurs. Tout le monde dira « Anton Seidel nous a donné un nouveau Wagner, un réel Wagner ». Il dirige notamment la première américaine de Tristan et Isolde au Metropolitan Opera en 1886. Alors on n'a pas l'enregistrement évidemment, mais on a retrouvé un enregistrement quand même très ancien, John Barbirolli, qui dirige l'Orchestre Philharmonique de New York en 1938. Liebestodt, extrait de Tristan et Isolde de Wagner. C'était John Barbirolli qui dirigeait l'Orchestre Philharmonique de New York, un enregistrement de 1938. Anton Seidel donnera ensuite le Ring pour la première fois sur le territoire américain, toujours au Metropolitan Opera. Et le public de New York va commencer à aimer cette fougue du compositeur et du chef d'orchestre. Anton Seidel sacralise Wagner auprès des New-Yorkais. On arrive au début du XXe siècle et là on arrive à la bataille homérique. Parce qu'un autre producteur décide de construire un autre opéra. Il s'appelle Oscar Hammerstein. On connaît son fils, qui est un des principaux librettistes de comédies musicales célèbres, comme Carousel, Oklahoma, La Mélodie du Bonheur. Mais son père, Oscar Hammerstein, était un brillant entrepreneur. Il était aussi un architecte de théâtre, en plus d'un inventeur né. Il avait inventé des machines pour fabriquer des cigares et détenait plus de 50 brevets. Il était producteur de spectacles de vaudeville, il avait construit 13 théâtres qu'il avait dessinés à New York, mais son désir le plus cher, c'était un opéra, c'était presque une idée fixe. Et il l'atteint en 1906 en construisant le Manhattan Opera. Un bâtiment de 3100 sièges, plus que le Metropolitan Opera, avec 42 loges et avec 20 soirées du samedi qu'il dédiait à un prix peu élevé au public populaire. Une salle située 311 Ouest 34e rue, donc un peu plus bas que le Metropolitan Opera. La bataille commence entre les deux bâtiments. Ce sont vraiment 4 années de guerre incroyable entre les deux organismes. Ils jouaient les mêmes jours, aux mêmes horaires, des représentations le lundi, le mercredi, le vendredi et deux le samedi. Malheur dirigeait le Metropolitan Opera, et bien Oscar Hammerstein confie la baguette de son Manhattan Opera House à un autre grand chef d'orchestre, Cleofonte Campanini. Et puis il recrute des chanteurs, à commencer par la plus grande des sopranos, Nelly Melba. Chaque soir, Oscar Hammerstein est présent à chaque représentation et veut que tous les artistes le voient. Il est installé tout en haut, mais tout le monde peut le regarder. Quant au répertoire, il est très différent de celui du Metropolitan Opera, plus moderne. Louise de Charpentier, Thaïs de Massenet, Péléas et Mélisande de Debussy, et aussi les Contes d'Hoffmann, œuvre méconnue à New York, d'Offenbach.
Il était une fois à la cour d'Eisenach. Un petit avorton qui se nommait Kleizak.
Qui se nommait
Kleizak. Il était coiffé d'un colbac et sa jambe faisait clic-clac, clic-clac, clic-clac. Voilà, voilà Kleizak.
Clic-clac,
clic-clac, clic-clac. Voilà, voilà. Avait une bosse en guise de stomac.
En guise de stomac.
Ses pieds ramifiés semblaient sortir d'un sac.
Semblaient sortir d'un sac.
Son nez était noir de tabac et sa tête faisait cric-crac, cric-crac, cric-crac. Voilà, voilà, Isaac.
Cric-crac,
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 cric-crac. Voilà, voilà, Isaac. Quand on trait, on trait de sa figure.
Kleinsack, extrait des Contes d'Hoffmann, d'Offenbach, c'était l'orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire dirigé par André Cluytens avec Nicolai Gueda et André Malabrera. Au cours des premières saisons, on va compter à New York plus de 300 présentations d'opéra. Parce qu'il y a cette guéguerre entre le Manhattan Opera House d'Oscar Hammerstein et le Metropolitan Opera. Si cette guéguerre se termine mal pour Oscar Hammerstein, en fait, elle va forcer le Metropolitan à se bouger. Son patron fait appel à sa star, le ténor Enrico Caruso. Au cours de la saison 1905-1906, il est dans un tiers des représentations. Il apparaît 61 fois sur scène. Malheur lui fait ses débuts. Gustav Mahler en dirigeant Haïda en 1908. Et puis, le Metropolitan Opera se dote d'un nouveau directeur, Giulio Gatti-Casazza, venu de la Scala de Milan, qui emmène dans ses bagages Arturo Toscanini. Le Met va donc dépenser une fortune pour surpasser son concurrent. Et par exemple, pour Il Trovatore, Toscanini demandera pas moins de 50 répétitions. La bataille est terminée, le Met sort transformé et grand gagnant de cette bataille.
France Musique, Go West, Laurent Vallière.
Le Metropolitan Opera ne s'ouvre pas pour autant aux opéras nationaux qui apparaissent alors. En 1928, Virgil Thomson compose Four Saints in Three Acts. Né dans le Missouri à Kansas City, il vient d'une famille de fermiers et de baptistes pieux. Il a étudié en France avec Nadia Boulanger. Il apprécie la compagnie des auteurs et peintres qu'il rencontre sur place, et notamment Gertrude Stein, à qui il commande un livret, une histoire simple et indiscernable autour de 30 saints. Sur scène, on ne compte pour une fois que des acteurs de couleur. Cet opéra créé dans le Connecticut, est ensuite joué 6 semaines à Broadway. Voilà, avant Porgy and Bess, aussi produit à Broadway avec des acteurs noirs, il s'agit bien d'une contribution à l'art lyrique américain, mais qui n'est pas créée au Metropolitan Opera. Voici Virgil Thompson qui dirige l'orchestre, en enregistrement de 1947.
St. Arthur, St. Selma, St. Paul, Sir, St. Cardinal, St. Plan, St. Giuseppe.
Anyone to tease the saints seriously.
St. Teresa in a storm at Avila, there can be rain and warm, snow and warm, that is, the water is warm, the river is not warm, the sun is not warm, and if to stay to cry, Ignatius staying where? Never heard him speak of it.
Saint Ignatius silent, won't it not hear him?
Saint Teresa silent,
they would never be set.
Nobody visits more than they do visits them.
private life?
Saint Teresa.
Who?
Introducing Saint Ignatius.
Left to be.
She can have no one, no one can have anyone. Anyone can have not anyone, can have not anyone, can have to say so.
Virgil Thomson dirige son opéra créé en 1928, Four Saints in Three Acts. C'était Beatrice Robinson Wayne, Ruby Green, Inès et Edward Matthews. Après Virgil Thomson, c'est au tour de Gershwin, George Gershwin, de composer un opéra avec uniquement des artistes noirs sur scène. Et Porgy and Bess marquera à jamais l'art lyrique américain. Certains disent que c'est le premier opéra réellement américain. C'est vrai que Gershwin réussit la fusion entre le blues noir, les rythmes afro-américains, la musique symphonique, et cette fois encore, l'œuvre n'est pas créée au Metropolitan Opera, mais dans le circuit privé, à Broadway, Alvin Theater, 124 représentations à partir d'octobre 1935. Bon, depuis, Porgy and Bess est rentré au répertoire du Metropolitan Opera. Sa dernière production, d'ailleurs, a reçu cette année le Grammy Awards du meilleur enregistrement classique.
Thank you.
Latonia Moore et l'orchestre du Metropolitan Opera dirigé par David Robertson. C'était extrait de Porgy and Bess de George Gershwin. En 1966, un nouveau Metropolitan Opera est inauguré. On a rasé les vieux immeubles en briques rouges où a été tourné le film West Side Story. On a construit là un nouveau bâtiment dessiné par Wallace Harrison qui peut recevoir près de 4000 personnes. L'entrée est ornée de peintures murales de Marc Chagall. Il est inauguré le 19 septembre 66 et on choisit pour une fois un opéra contemporain américain, Antoine et Cléopâtre, de Samuel Barber. Mais le grand événement qui va marquer le Metropolitan, ça sera en 1976. Pour une fois, une première américaine, une œuvre de 5 heures, un matériau musical ininterrompu, une mise en scène glaciale, on va dire bleutée, signée Robert Wilson, un orchestre qui est l'ensemble Philip Glass dans la fosse, deux orgues électroniques dont l'un joué par le compositeur, trois instruments à bois, une voix de femme, un violon. Tous sont amplifiés. Robert Wilson écrit « Notre opéra, Einstein on the Beach ». Il n'y a rien de plus simple. Vous n'avez pas à penser à l'histoire, il n'y en a pas. Pas besoin d'écouter les mots, ils ne signifient rien. Je ne vous donne pas un puzzle à résoudre, seulement des images à écouter. musique de Philip Glass. New York aime la voix et aimera aussi les voix de comédie musicale. La comédie musicale, la chanson, c'est l'âme de New York. Demain, on se baladera sur la Tin Pan Alley, la rue des éditeurs de musique. Merci à Clara Nouvelle qui m'a aidé à préparer cette émission, à Alice Escriou pour le site, au mixage à Julien Douminc, à la réalisation à Catherine Prin-Legal. Vous pouvez podcaster cet épisode et toute la série Go West sur l'application Radio France. Et la programmation musicale est disponible sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.